Si on s'imagine un instant marcher en plein cœur d'une grande métropole moderne, disons au beau milieu de Times Square à New York ou au fameux carrefour de Shibuya à Tokyo.
Ouais, genre d'endroit où ça grouille de partout.
Exactement. Des dizaines d'écrans géants qui clignotent dans tous les sens, des milliers de voix qui s'entremêlent, les klaxons. Et par-dessus tout ça, on a tous ces minuscules rectangles dans nos poches qui vibrent toutes les 3 minutes.
Les fameuses notifications.
C'est ça. Une nouvelle alerte, une urgence, un mail. Et on a vraiment cette impression tenace et super épuisante, pour le coup, que cette surcharge d'informations, ce bruit mental assourdissant, bah c'est un problème strictement moderne. Genre, le fameux burn-out cognitif serait un symptôme exclusif de notre époque hyper connectée. Je suis toujours un peu fascinée par cette idée.
Bah, c'est le grand bien de notre époque, en fait. On aime se convaincre de ça.
Qu'on est unique dans notre souffrance.
Voilà. Le cerveau humain n'a pas fondamentalement changé au cours des derniers millénaires, mais on se dit que notre fatigue mentale, notre distraction permanente, c'est une épreuve totalement inédite dans l'histoire de l'humanité.
Sauf que, et c'est là que l'histoire nous rattrape, quand on plonge dans certains textes antiques, on se rend compte que ce diagnostic qu'on croyait super moderne se révèle être en fait un défi humain extrêmement ancien.
C'est clair. Le décor change, mais le bruit de fond reste le même.
Et c'est exactement la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se pencher sur un document vraiment fascinant. Ce sont les notes d'analyse du docteur David A. de Silva sur le livre biblique des Hébreux.
Plus spécifiquement, sa 14e session, pour être exact.
Ouais, la session 14. Et l'objectif ici, c'est pas de faire un simple cours d'histoire poussiéreux pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment de décortiquer comment ce texte très ancien se lit de manière assez troublante, on dirait un véritable manuel de survie psychologique, contre les distractions.
Et faut préciser d'emblée que le cadre posé par ce texte est d'une exigence assez radicale.
C'est-à-dire ?
Le message original exhorte ses lecteurs avec un mot d'ambre qui laisse vraiment pas de place à la complaisance. En gros, c'est ne pas endurcir son cœur.
D'accord.
Le docteur De Silva, dans ses notes, souligne bien qu'on n'est pas face à de la grande théologie abstraite, tu vois. C'est pas déconnecté du réel. Il analyse des principes de navigation hyper concrets pour éviter le naufrage mental.
Donc, redéfinir comment on filtre notre réalité au quotidien ?
Exactement.
Ok, décortiquons tout ça. Parce qu'avant de comprendre les solutions de ce manuel de survie, il faut qu'on s'entende sur la menace elle-même. Ce bruit assourdissant dont on parlait avec l'image de Times Square. Quelle forme ça prenait pour les premiers destinataires de ce texte ?
Ouais, parce qu'ils n'avaient pas de smartphone.
Bah oui.
S'ils n'avaient pas Instagram ou les chaînes d'infos en continu, par quoi ils étaient distraits au point de nécessiter un tel recadrage ?
La distraction à cette époque, ça prenait surtout la forme de pression sociale très intense.
Ah, la pression du groupe ?
Ouais. Et aussi une instabilité économique chronique. Et pour certains, faut pas l'oublier, la menace bien réelle de persécution physique.
Donc le bruit, c'était la survie immédiate, en fait. Totalement. C'était le besoin constant de s'intégrer dans une société romaine ou judéenne qui rejetait souvent ses premiers croyants. Et face à ça, l'analyse de De Silva met en évidence un contraste absolu posé par le texte.
Quel contraste, hein ?
La tension entre le monde visible, matériel, qui est par nature temporaire et voué à disparaître,
voué à être ébranlé, ouais.
Voilà. Et un royaume invisible, perçu comme éternel et supérieur. De Silva cite d'ailleurs un poète et prédicateur du XVIIe siècle, John Donne, qui a magnifiquement capturé cette idée.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Il rappelait que chaque minute vécue dans cette vie matérielle dépend et résonne sur des millions d'années dans la suivante.
Oh waouh ! C'est un vertige temporel, ce truc. Et ce que je trouve vraiment subtil dans ses sources, c'est la façon dont elles décrivent le piège de la distraction.
C'est-à-dire ?
Mais l'auteur antique n'est pas en garde contre un grand rejet théologique dramatique. Le danger, c'est pas de se lever un matin, genre, et de brûler ses croyances sur la place publique. C'est infiniment plus insidieux.
L'art de dériver, c'est ça ?
C'est exactement ça, l'art de dériver. C'est un glissement super progressif vers la gratification immédiate. Le texte utilise l'exemple d'Ésaü, ce personnage de la Genèse.
Ah oui, l'histoire de la soupe.
Voilà, il rentre des champs, il est épuisé, affamé, et il vend son droit d'aînesse, donc son grand héritage futur à long terme, pour un simple bol de lentilles. Juste parce qu'il a faim maintenant, tout de suite.
C'est l'illustration parfaite de la tyrannie de l'urgence. Le besoin physique et immédiat court-circuite complètement la vision à long terme.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que si on transpose ça dans notre réalité aujourd'hui, c'est saisissant. Le bol de soupe a juste changé d'apparence.
Ouais, on vend plus notre héritage pour des lentilles.
Non, aujourd'hui, l'équivalent de sacrifier sa croissance spirituelle, ça serait de sacrifier ses convictions profondes pour, je sais pas, acquérir un produit de statut social que l'algorithme nous a vendu.
Ou pour écraser un collègue afin d'obtenir une promotion.
C'est ça. C'est l'incapacité totale à différer la récompense. Alors, ça m'amène à une vraie question sur le concept de foi dans ce texte, pour l'expert que tu es.
Je t'écoute.
Dans ce contexte-là, est-ce que la foi, c'est juste le fait de cocher mentalement la case « je crois en Dieu » ou est-ce que c'est un filtre pour nos décisions ? Je propose une petite analogie pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y.
Est-ce que ce serait pas un peu comme le fonctionnement de l'économie moderne avec le cloud computing ou la bourse en ligne ?
Je vois où tu veux en venir.
En gros, on voit jamais les serveurs physiques, on touche jamais les millions qui transitent, mais on base des décisions de vie monumentales sur l'existence de ces infrastructures invisibles.
C'est une excellente comparaison. Ça touche exactement au cœur du chapitre 11 des Hébreux. Ce qui est fascinant ici, c'est que la foi telle qu'elle est disséquée par De Silva s'éloigne totalement d'une simple adhésion intellectuelle.
C'est pas juste une croyance passive, quoi.
Pas du tout. C'est la conviction absolue que les infrastructures invisibles dont tu parles, dans ce cas-ci, les promesses de Dieu, sont la réalité la plus fondamentale, plus réelle que le matériel.
D'accord.
Si on regarde la géopolitique actuelle, les marchés mondiaux super volatiles...
Oh là là, n'en parlons pas.
Ouais, les accords de paix fragiles, l'économie, tout ça prouve chaque jour à quel point les structures humaines sont instables.
C'est clair.
Donc agir par la foi, selon ce texte, c'est structurer sa gestion financière, son temps, ses relations, en utilisant le futur éternel comme seule boussole fiable. Exactement comme un investisseur qui parierait toute sa fortune sur une tendance à long terme.
Une tendance que lui seul arrive à lire au milieu du chaos.
Exactement.
Non. Par contre, si on suit cette logique, ça soulève un problème de taille.
Lequel ?
Si le monde matériel est un vaste champ de sable mouvant voué à disparaître, où est-ce qu'on est censé trouver une stabilité ? Parce que si on nous dit juste « tout va s'effondrer, regarde vers l'invisible », moi je trouve que ça peut vite générer une angoisse terrible. On a besoin d'une encre, non ?
Et c'est là que l'auteur antique introduit un contrepoids psychologique massif. La réponse à cette instabilité, elle se trouve pas dans la recherche frénétique de nouvelles garanties matérielles.
Ok, donc pas de nouveaux boucliers physiques ?
Non, ça se trouve dans la redécouverte de ce qui est déjà possédé en Christ. Le texte utilise une métaphore maritime très puissante pour l'époque. Jésus est décrit comme une encre pour l'âme.
Une encre, ouais.
Une constante absolue. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour bien faire comprendre ça, le docteur De Silva s'appuie sur les écrits de Dio Chrysostome.
C'était qui, lui ?
Un philosophe et orateur romain de la même époque. Chrysostome dressait un constat super amer de la nature humaine. Il se plaignait du fait que les humains sont fondamentalement inconstants.
Ah, ça n'a pas vieilli, ça.
Non, c'est sûr. Il disait qu'ils changent d'avis comme de chemise, trahissent leurs promesses, offrent des conseils contradictoires selon leur intérêt du moment.
Ouais, l'inconstance humaine. Je pense qu'on a tous fait l'expérience d'un patron ou d'un ami dont la faveur disparaît du jour au lendemain. C'est juste épuisant de construire sa vie sur l'approbation des autres.
Précisément. Et face à cette versativité, l'épître propose cette encre qui traverse le rideau de l'incertitude. De Silva cite aussi une prière du Book of Common Prayer de l'Église épiscopale.
Et elle dit quoi, cette prière-là ?
Elle demande à Dieu de fixer nos cœurs là où se trouvent les vraies joies, au milieu des, je cite, « changements rapides et variés du monde ».
C'est beau et très pertinent.
Ouais, mais l'élément le plus disruptif du texte, historiquement parlant, c'est la façon dont cette sécurité est distribuée. L'auteur des Hébreux explique que Jésus agit comme le grand prêtre ultime, ce qui met fin au système des prêtres lévitiques.
Alors justement, attends, arrêtons-nous là-dessus un instant.
Vas-y.
Pourquoi De Silva insiste-t-il autant sur ces fameux prêtres lévitiques ? Parce que, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça sonne un peu comme un détail historique très spécifique, limite poussiéreux. En quoi c'était une révolution ?
Pour comprendre l'impact, il faut vraiment s'imaginer la structure psychologique de la religion à l'époque.
Ok, je t'écoute.
Sous l'ancienne alliance, l'accès au divin, au pardon, à la paix de l'âme, c'était hyper restreint. Il fallait passer par des intermédiaires. Des professionnels, quoi. Ces fameux prêtres lévitiques.
Il y avait des barrières.
Plein de barrières. Des rideaux physiques dans le temple, des règles de pureté ultra complexes. Et ce que le texte annonce, c'est la démocratisation totale de l'accès à la grâce.
Ah, la barrière tombe.
Complètement détruite. Désormais, tout croyant a un accès direct et permanent à cette encre spirituelle. C'est un bouleversement hiérarchique total.
D'accord, je saisis la révolution historique. mais je vais me faire un peu l'avocate du diable pour le coup.
J'aime bien quand tu fais ça.
Bah écoute, le texte mentionne que la vie est fragile, d'accord ? Mais quand un ouragan détruit des décennies de travail ou qu'une crise jette des centaines de familles à la rue, parler d'une encre spirituelle invisible, est-ce que c'est pas un peu, je sais pas, condescendant ? Est-ce que c'est pas juste une carotte illusoire tendue à des gens qui souffrent matériellement dans leur chair ?
Je serais totalement d'accord avec toi si le texte promettait l'immunité. Mais c'est absolument pas le cas.
Ah bon ?
Non. L'auteur des Hébreux est d'un réalisme frappant. Ils vont pas un bouclier magique contre la banqueroute ou la maladie.
D'accord.
Ce qu'il affirme, c'est que face à l'épreuve, les croyants ont accès à des ressources réelles. De Silva explique que le Christ n'est pas une divinité froide et distante, mais quelqu'un qui sympathise avec nos faiblesses.
Donc ça donne une résilience interne.
Exactement. Une force mentale pour affronter la tempête. Mais il y a aussi un aspect externe crucial.
L'aide matérielle.
Voilà, l'aide des autres croyants. L'ancrage invisible produit des effets de solidarité très visibles.
Et ça, ça crée une transition parfaite vers la grande question éthique de notre analyse. Parce que si on bénéficie de ce soutien, de cet accès direct et de cette sécurité, la dynamique change.
Complètement.
On ne peut pas juste consommer cette grâce de manière égoïste, en mode « merci pour l'encre, fallu ». Le texte indique qu'il y a une dette de gratitude.
C'est le basculement fondamental de l'épître, ouais. On passe de « voici ce qu'on a » à « voici ce qu'on doit en retour ». La théologie et l'éthique se rejoignent. Ne pas perdre de vue ce qui est dû à Dieu.
Dans les sources, il y a une analogie agricole que je trouve brillante pour illustrer ça. C'est dans le chapitre 6. Le texte explique que quand la pluie tombe sur un champ, elle tombe pas juste pour faire plaisir aux nuages.
Ce serait absurde.
Ouais. Son but ultime, c'est que la terre absorbe l'eau pour produire de la végétation pour les fermiers.
Tout à fait.
Et la grâce divine fonctionnerait exactement pareil. Elle doit pas stagner, elle doit se transformer en service pour autrui.
Et c'est une idée très forte. De Silva cite d'ailleurs le théologien Dietrich Bonhoeffer à ce sujet.
Celui qui a résisté au nazisme.
Lui-même. Il avait une horreur absolue de ce qu'il appelait la grâce bon marché, l'idée qu'on pourrait recevoir le pardon divin et continuer à vivre de manière purement égoïste.
Ça lui paraissait inconcevable.
Totalement. Il cite aussi l'apôtre Paul dans la deuxième aux Corinthiens. Paul exige que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le texte appelle ça la magnifique ronde des grâces, un mouvement perpétuel de dons et de redons.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment ? Parce qu'on entend souvent dire que la grâce est totalement gratuite. C'est un peu le fondement du discours, non ?
C'est vrai.
Du coup, est-ce que ce texte ne vient pas bousculer nos bagages théologiques en disant qu'en réalité, cette grâce exige de payer le prix d'une obéissance loyale ? Ça a l'air contradictoire.
Si l'on relie ça à une perspective plus large, c'est pas contradictoire. L'analyse de Silva l'explique super bien. Offrir sa vie, c'est pas pour gagner la faveur de Dieu.
Donc c'est pas un système de mérite ?
Pas du tout. La justification, le fait d'être accepté, et la sanctification, la transformation de vie, sont inséparables.
D'accord.
Le cœur humain est littéralement reprogrammé par l'immensité de ce cadeau. On passe de l'égoïsme à la gratitude. L'obéissance devient juste la seule réponse honorable face à une telle générosité.
Ok, le logiciel interne est mis à jour vers la gratitude active. Mais on va pas se mentir, faire tourner ce logiciel tous les jours avec le stress, les obligations, essayer de garder les yeux fixés sur l'invisible, c'est écrasant.
C'est clair.
Si quelqu'un essaye de faire ça en solitaire, c'est l'épuisement garanti, non ?
C'est pour ça que le dernier point de Silva est crucial. Ne pas se perdre de vue les uns les autres. L'auteur des Hébreux s'attaque frontalement au mensonge culturel moderne selon lequel la religion serait une affaire strictement privée.
Ah, le mythe de la spiritualité individuelle. Le fameux cliché du moine zen sur sa montagne détaché de tout le monde.
Exactement. Le texte rejette ça. Il faut s'encourager mutuellement. De Silva donne l'exemple historique des « réunions de classe » de John Wesley.
Au XVIIIe siècle, c'est ça ?
C'est ça. Wesley avait compris qu'on a besoin de petits groupes pour se tenir responsables. Et plus près de nous, De Silva raconte une anecdote super touchante d'une collègue du séminaire théologique d'Ashland.
L'histoire avec le Nigérien.
Ouais, il y a 3 décennies, donc bien avant les réseaux sociaux et la facilité d'aujourd'hui, elle échangeait des emails réguliers avec un missionnaire là-bas.
Qui demanda un effort logistique fou à l'époque.
Un bel effort, ouais.
Et grâce à ça, elle a pu soutenir matériellement et spirituellement des convertis qui faisaient face à des persécutions brutales. C'est ça la communauté en action.
C'est fou. Si je devais proposer une image visuelle pour résumer ça, je dirais que la vie chrétienne, selon ce texte, c'est pas une course d'athlétisme avec des couloirs séparés.
Où chacun regarde son propre chrono.
Voilà. C'est plus une course où on se tient par la main. Si quelqu'un trébuche, on s'arrête, on le relève.
Cela soulève une question importante sur l'aveuglement humain.
C'est-à-dire ?
Sans le soutien de la congrégation, un individu peut vite être aveuglé par le péché, par ses propres failles, il est incapable de retrouver seul la clarté. La communauté, c'est le seul moyen de risquer l'honnêteté nécessaire à la croissance. C'est fascinant. Donc, pour récapituler un peu notre voyage, on a vu comment redéfinir nos priorités loin du bruit du monde,
ouais.
Comment s'ancrer dans la constance de Jésus, l'obligation d'une gratitude active et l'impossibilité de faire tout ça en solitaire.
Un programme complet.
Exactement. Et pour clôturer, on aimerait laisser à notre audience une dernière réflexion provocatrice basée sur cette définition de la foi, agir en fonction de réalité invisible.
L'audit ultime.
C'est ça. Si un observateur extérieur n'avait accès qu'à deux choses, vos relevés bancaires et votre agenda de la semaine dernière, les traces purement visibles de vos décisions.
Pas d'accès aux pensées ni aux belles intentions.
Rien de tout ça. Est-ce qu'en regardant ces documents, il pourrait y déduire l'existence de ces réalités invisibles et de cette encre éternelle ? Ou est-ce que cette existence semblerait identique à celle de ceux qui ne croient qu'au monde temporaire ?
C'est une vraie question qui remet les idées en place.
Complètement. On vous laisse méditer là-dessus. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie et à très bientôt.